soir. Donc j'étais dans la rue en arrivant. Je ne sais pas pourquoi, je regardais soudain vers le ciel et j'ai vu la lune. Et qui est un croissant. Tu l'as vu aussi?
Je l'ai vu hier.
Quoi?
Et
puis il y avait quelque chose qui m'avait frappé, je ne savais pas trop quoi, mais quand je me suis assise, ça m'est revenu, mais et c'est on voit la lune parce que il y a l'espace, il y a le ciel vide. C'est comme on entend le silence parce que la cloche sonne. Et où on voit oui, avec la lune, le croissant, on voit le côté lumineux parce qu'il y a le côté obscur. Et vice versa, c'est-à-dire qu'on voit le côté obscur parce qu'il y a le côté lumineux. Et on entend la cloche parce qu'il y a le silence. Et on voit le ciel parce qu'il y a la lune. Et je me demandais, alors, qu'est-ce que ça a à voir avec cette pratique qu'on fait? Récemment, je suis en train de me demander de temps en temps quelle est l'origine de cette pratique pour moi, quelle est l'essence. J'ai toujours cette question en tête que quelqu'un m'a dit que on lui a posé une question, on lui a demandé si la méditation était un but en soi. Et dans un premier temps, elle avait dit oui. Et puis plus tard, elle avait réfléchi à ça et elle avait dit non. Et j'ai toujours cette question en tête. Je suis pas même pas sûr ce que ça veut dire. Est-ce que la méditation est un but en soi? Enfin, c'est-à-dire que je sais très bien ce que ça veut dire, cette question. Et en même temps, je ne sais pas. Et il me semble que répondre à cette question à propos de la pratique, à propos de la méditation, on ne peut pas répondre à cette question à propos de la méditation comme on pouvait répondre, par exemple, à est-ce que boire un verre de vin est un but en soi? Ou est-ce que se laver les dents est un but en soi? C'est pas le même genre de... Il ne s'agit pas de la même chose, disons. Ça se situe sur un autre plan. Et cette question vise quelque chose qui est sur un plan où il y a des buts, où il y a soi. Donc, cette question m'intrigue toujours. Parce que si on fait, on connaît, moi je connais quelques aspects de, du grand maître zen Dogen qui disait que on ne pratique pas pour s'éveiller, on pratique parce que on est éveillé. Non, je paraphrase ce qu'il a dit, mais c'est parce que c'est toujours très poétique et très compliqué ce qu'il dit, Dogen, mais c'était ça l'essence de ce qu'il avait dit dans ce contexte. Et là, dans, quand on voit ça, ben cette question de est-ce que c'est un but en soi n'a plus le même sens. C'est-à-dire que est-ce qu'on le fait pour obtenir quelque chose? C'est-à-dire, est-ce que c'est une pratique matérielle, matérialiste, utilitaire? De certains côtés, oui. En même temps, si on le fait avec un but matériel, il y a une seule possibilité, c'est qu'on va être déçu. Parce qu'on ne va pas obtenir ce qu'on veut, parce qu'on peut. Il n'y a rien à obtenir. Peut-être la seule chose qu'on obtient, entre guillemets, c'est cette réalisation qu'il n'y a rien à obtenir. Si on puisse dire quelque chose, ce genre. Donc voilà. Et hier, dans une discussion avec mon mari et mon fils, et mon mari disait, oui, peut-être il va falloir déplacer, on parlait de ranger quelque chose dans notre chambre, et il dit, peut-être il faut déplacer le lit, mais si on fait ça, tu n'auras plus cet espace entre le lit et la fenêtre où tu aimes faire la méditation. Et je dis, oh, bah, moi je peux le faire ailleurs, hein, ce n'est pas du tout un problème. Et mon fils a dit, mais maman, tu ne fais jamais de la méditation. Et je trouvais ça étonnant, rigolo. Ça m'interrogeait, quoi, qu'il disait ça. Et je dis, mais quoi, je fais jamais de la méditation? Et puis je me suis rendu compte que parce que moi je ne fais pas de la méditation entre guillemets quand il est là, parce que quand il est là je suis en train de faire autre chose, et je deux soirs par semaine je ne suis pas là parce que je fais de la méditation, je mets dans sa tête, je sais pas, je crois qu'il pensait plutôt à la maison quand il est là, il ne me voit jamais faire. Mais c'était quand même la comble, quelqu'un qui enseigne la méditation à Maître Zen, qui, dont le fils dit, mais tu fais jamais de la méditation. Alors tout ça, ça flotte comme des nuages qui passent dans le ciel. Et que j'avais vu aussi autour de la lune. Et ce qui me fait revenir constamment à quel est le. De quoi il s'agit à l'origine. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, des questions, des réponses à apporter à cette question de quoi il s'agit, ou... Parce que je crois que c'est une question que chacun doit répondre. Pour soi. Quoi ?
Se poser, mieux moi.
Voilà. Et les réponses de quelqu'un d'autre ne vont pas être satisfaisantes pour chacun. Ça me fait un peu penser de la semaine dernière quand on était ici et on se posait cette question. Pourquoi ? Ou peut-être pas, je sais pas. Alors, c'est...
C'était peut-être l'objectif pour lequel on vient tous les jours. Pourquoi ? Pour lequel on vient s'asseoir, pour découvrir ça.
Découvrir ?
Qu'est-ce que c'est que la méditation ? Qu'est-ce que... Est-ce qu'on essaie de découvrir quand on s'assied là ? Et quel rapport avec notre vie ?
Oui.
Si jamais on voit les choses différemment.
Si ?
Si on voit les choses séparément.
Oui. Oui. Je comprends bien. Mais c'est vrai. C'est... Quel est le rapport avec notre vie ? Quel est le...
Mais si on dit que c'est une fin en soi, quelque part, il y a juste le fait de... qu'on n'en attend rien, puisque c'est une fin. Enfin, du coup, on s'assoit et puis voilà.
Ouais.
Donc il n'y a rien à attendre, puisque c'est juste ça.
Ça aussi. Oui, tout à fait. Et en même temps, probablement, on est en train de chercher quelque chose ou vouloir quelque chose. Ou... Pas toujours, je dis pas toujours, mais il y a des moments où on dit « Ah, mon esprit est dispersé, je vais être présent, je vais être là. » Ou oui.
Ça, c'était ma plus grande frustration. Comme j'ai commencé la méditation, c'est sentir que c'était tout le temps différent. Sentir que je n'étais pas tout le temps à 100% présent. Ou... Je crois que c'est ça. Ça, c'était vraiment la plus grande déception, je crois, de ne pas pouvoir être tout le temps concentré.
Dans lequel on n'est pas réceptif, c'est le fait que on n'est pas toujours réceptif. Dans cet exemple-là, c'est vrai. Et c'est vrai que si c'est un fin en soi, un but en soi, il n'y a rien d'autre. Et c'est juste ça, quoi. C'est...
Ça fait penser à l'émission que l'émission sur France Culture sur la spiritualité laïque qui portait sur la pratique zen, et les journalistes interviewaient une personne, et ça en est venu à faire le lien avec la religion et le rapport à Dieu, et il disait, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas, enfin, est-ce qu'il n'y a pas ça derrière le zen aussi, c'est la recherche de, enfin, Dieu, on dit ce qu'on veut, mais... enfin c'est cette énergie ou ce truc que... et moi c'est quelque chose, et j'écoutais avec un ami et qui me questionnait là-dessus, et j'arrive pas à faire le lien, et je dis, Et j'arrive pas à parler autour. Enfin, même, enfin, pour moi, après, c'est passé à la philosophie où on est sur un autre niveau de discussion. Je dis, le zen, pendant la pratique, c'est juste, c'est là, c'est venir, c'est m'asseoir, c'est ça, c'est pas c'est rien d'autre. Il n'y a pas de. J'arrive pas à faire le lien avec la spiritualité, enfin, c'est une forme de spiritualité, j'imagine, mais. Enfin, voilà, je. Et c'est pas la première fois que je suis confrontée à ce questionnement auquel je n'arrive pas à répondre.
Et dans l'entretien, la personne qui répondait disait que oui, effectivement, ils allaient chercher Dieu.
Non, au début, non. Mais à la fin, il reconnaissait que dans. Bon, il faut que je réécoute parce que j'étais un peu distraite. J'ai pas bien suivi comment il a terminé, mais il disait, enfin, il y avait effectivement, il a parlé à la fin de ce moment de ciel bleu, un peu quand les nuages disparaissent et qu'on sent un certain bien-être, et que peut-être qu'on peut associer ça, si on veut, à une certaine forme de divinité ou d'un tout que Dieu. Enfin, je m'arrête là parce que je sais plus exactement comment il dit. Mais. Il faisait un lien éventuellement, peut-être qu'on peut, mais sans dire, sans vraiment en prouver non plus.
Je ne l'ai pas écouté. Je vais l'écouter d'ailleurs, parce que tu m'as envoyé le lien, et je pense qu'on peut toujours l'écouter.
Oui, ça vient de cette semaine.
Moi, je dirais plutôt que la notion de Dieu comme étant séparé, comme étant une entité ou une qualité ou quelque chose à l'extérieur. Le zen ne s'agit pas du tout de ça. Mmh. Et plutôt aussi, c'est plutôt que de voir pas que parfois le divin s'exprime, mais plutôt que tout exprime la divinité, que tout est divin, que tout est Dieu, si on parle de Dieu. Encore une fois, moi je n'emploie pas le mot Dieu en parlant de ça, mais bon, comme c'était ça la question. Que si peut-être ça, oui, que le ça me fait penser aussi à j'ai lu ce truc, je sais pas où je l'ai lu, mais un livre où le journaliste explique comment on peut, il a suivi une formation pour mieux mémoriser les choses. Et la façon de mieux mémoriser, par exemple, mémoriser le contenu, l'ordre des cartes dans un jeu de cartes qui contient 52 cartes, de mémoriser l'ordre de ça dans moins d'une minute. Enfin, c'est un exemple qui a été donné. Et la façon de faire, il a expliqué, c'était juste brièvement, c'était d'associer chaque carte ou chaque nom, numéro, etc., j'utilise mes mots, mais avec quelque chose, par exemple, sa maison d'enfance. Et les objets ou les pièces dans cette maison, ou un parcours qu'il suivait pour aller à l'école, un truc comme ça, et les différentes choses qu'il voyait, etc., il associait, et comme ça, il pouvait mémoriser ça. Je trouvais ça très étrange. Et puis le journaliste qui l'interviewait lui demandait, mais quel intérêt de pouvoir mémoriser les choses comme ça. Et bon, il disait les choses, et puis il a dit, mais ultimement, c'était juste pour être plus consciente de les choses qui l'entouraient. Il me semble que plutôt que de s'accrocher à des choses agréables et les mémoires pour être plus conscient de ce qui nous entoure, il convient de ne pas s'accrocher à ces mémoires et ces choses et ces idées qui... une idée de quelque chose qui est divin et quelque chose qui n'est pas divin, de quelque chose qui est agréable et quelque chose qui n'est pas agréable, toutes les dualités, toutes les choses qu'on veut garder en mémoire et les choses qu'on ne veut pas garder en mémoire, etc. Dans mon expérience, je suis plus consciente, j'ai plus d'attention, je suis plus attentif à ce qui est là. Si je ne suis pas attachée à ces dualités, etc. Et que c'est pas qu'il s'agit de ça, en fait. Et ce n'est pas religieux dans ce sens-là. Mais bon, je suis peut-être... Je ne suis pas orthodoxe, disons. Je voyais Brigitte qui faisait ça, et puis... Tu avais des choses à dire?
Je me souviens plus.
Non plus.
Oui, non, par rapport au jeu de cartes, ça me semble tellement faire intervenir le mental,
ouais,
qu'à partir du moment où le mental est vraiment aussi présent, bah, ça coupe. Je crois que c'était pour ça.
Oui, c'est vrai.
En plus, c'était des souvenirs du passé, de... Donc c'était pas là.
Exactement. Et cette notion de... Ça me fait penser à cette histoire de Dieu, etc. Ça me fait penser à le fondateur du Zen, en fait, Bodhidharma, qui est le fameux... entretien qu'il a avec l'empereur, quand l'empereur a entendu parler de ses grands maîtres qui étaient étranges, qui venaient d'Inde, qui étaient un barbare, etc., en Chine. Et donc il lui fait bien venir, et il avait fait l'empereur donner beaucoup, c'était un grand mécène pour les centres des temples, il créait les temples, les monastères. Il faisait construire les lieux de pratique, etc. Et donc il demandait à Bodhidharma, mais quel alors, j'ai fait tout ça, quel mérite j'ai, ou je vais avoir d'avoir fait tout ça. Et Bodhidharma lui dit, pas de mérite. Alors là, déjà, c'était énorme pour... l'empereur d'entendre ça. Donc il dit, mais attends, mais quel est le... S'il n'y a pas de mérite, quelle est l'essence de cette pratique, alors, de cet enseignement? Qu'est-ce que le Bouddha disait vraiment? Et là, Bodhidharma dit, rien de sacré. Le vide, vaste vacuité. Alors là, Qu'est-ce que ça veut dire rien sacré, hein? C'est... c'est dès qu'on commence à dire ceci est sacré, ceci n'est pas sacré, le problème. Ceci est sacré, ceci est profane. Pour quelqu'un d'autre, ceci est sacré, ceci est profane. À un autre moment, ceci est sacré, ceci est profane. Évidemment, c'est les termes relatifs. Où ceci est un peu sacré et ceci est un peu profane. Et ça, c'est plus sacré et ça, c'est plus profane. Dès qu'on fait le moindre séparation, le gouffre est énorme. Et c'est sur ces bases-là que le zen, il est considéré comme le premier patriarche des zen. C'est sur ces bases de rien de sacré que c'est fondé. Et qu'est-ce qu'il préconisait comme pratique, Bodhidharma, s'asseoir face à un mur. C'est tout, rien d'autre. Seulement, c'était interprété au sens. Qu'est-ce qu'on dit au sens. Voilà, on dit ça en français. Souvent, c'est aussi au sens propre et figuré. C'est ça. Ouais, au sens propre. Et donc, aujourd'hui même, il y a des gens qui s'assoient face au mur. Le fait est qu'on est toujours face au mur. Parce que c'est le mur de l'inconnu. Le mur de... du vide, le mur de l'obscurité, en fait. Et aussi le mur du forme, parce que on ne voit pas vraiment les formes. On ne voit pas vraiment ce qui est devant notre nez. On n'a pas besoin de s'asseoir face à ce mur. Ok, bien, ça fait ça. Ça peut nous apporter quelque chose, je ne sais pas, mais c'est pas ça dont il s'agit, en fait. C'est un peu comme le symbole des chrétiens est devenu la croix, qui était juste, c'est comme ça qu'on martyrisait les gens à l'époque. Et maintenant, c'est devenu le symbole de quelque chose de sacré. C'est devenu quelque chose de sacré. La croix. Et de même, il y a des pratiques en zen pour lesquelles s'asseoir face au mur est sacré. Bien que le mec qui a dit il faut s'asseoir face au mur disait qu'il n'y avait rien de sacré. Donc, tout ça, c'est des questions qui sont valables. Je ne dis pas que moi, je sais mieux que les mecs qui sont assis face au mur. Pas du tout. Je me pose les mêmes questions. Je fais mon mieux comme eux. Mais je me sens quand même une responsabilité à m'asseoir face à ma vie, face au mur qui n'est pas le mur. Parce que je sais que c'est par là où il y a la libération.
Mais ça, c'est un but, alors.
De se libérer, oui, tout à fait. c'est là où j'ai dit c'est it's tricky. Mm. Car effectivement, il n'y a rien à atteindre. Tout est là. Mais comme on ne sait pas ça, comme ce n'est pas notre expérience, on va chercher quelque chose. Et si on ne cherche pas, alors on va juste aller faire le bringue, ou je ne sais pas. Si on veut rester si on n'allume pas le, si on ne fait pas l'interrupteur, il n'y aura pas de lumière. On peut très bien ne pas voir la lumière, c'est vrai. Vous pouvez s'asseoir sans lumière aussi.
Et est-ce que cette libération dont on parle, il faut l'avoir comme un but, ou alors juste dans l'instant, quand je regarde ce qui se passe en moi, quand je fais face, quand je suis libérée dans l'instant, et pour un instant, et puis voilà, ça revient comme ça. Mm-hmm. Moi, je le comprendrais plutôt comme ça.
Oui, c'est pas que on est ce qui nous entrave est coupé et on n'est plus entravé. On n'aura plus d'entrave après. Ce qu'on découvre, c'est la vraie nature des choses qui est un permanent, qui bouge tout le temps. Et donc, on découvre que comment dire, que les entraves, que ce qui nous entrave, c'est de ne pas voir qu'on est libre, ce qui paraît curieux. Que tout bouge à chaque instant.
C'est ce que tu dis, hein. Si tout bouge à chaque instant, c'est comme libre. Mm-hmm.
Mmh. Oui. Mais comment dire, il y avait quelque chose à propos de non, je ne me souviens plus. Ça m'est échappé. Ça bouge. Ça coule.
C'est libre.
Voilà. Ce n'est plus.
C'est drôle parce que pour moi, quand dans le moment où je réalise ça pour de bon dans le moment, il y a à la fois de la libération, évidemment, et en même temps il y a une certaine tristesse, comme si le fait de perdre un but ou un, comment dire, de perdre un espoir, de perdre, même si c'est un espoir qui est qu'attente, mais le fait de perdre ça, ça génère aussi une certaine forme de tristesse. Et c'est à la fois tristesse et libération. Et soulagement. C'est... Ben, c'est ambi... Pour moi, c'est ambivalent. Mmh.
Ben, il est vrai que c'est tellement familier, c'est, cette
façon de
ne pas
attendre,
voilà, d'avoir but, de d'obtenir, de il s'agit de ben, c'est cette notion de dans le mot désespoir. C'est l'espoir qui est défait. Et quand on dit qu'on n'a pas d'attente, on n'a plus d'attente, ce qui est convient, ce qui est ce qui est, et on n'a plus besoin de chercher autre chose que ça. Toutes les espoirs, l'espoir est plein, tout est possible. L'espoir n'est pas défait, c'est pas un désespoir. C'est pas qu'il n'y a plus d'espoir, c'est qu'il y a plein d'espoir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire?
Non, plus dans le sens d'attente, alors là.
Quoi?
Plus dans le sens d'attente, là, ce dont tu parles.
Il n'y a pas d'attente.
Voilà,
non,
plus dans le sens d'attente. Alors que peut-être avant l'espoir, c'est dans le sens d'une attente.
Ah oui, peut-être. On espérait quelque chose en particulier. Et là, on espère. On a un espoir pour rien en particulier. Tout ce qui vient convient à nos espoirs.